France Musique.
France Musique. Les grands entretiens. Arnaud Merlin.
Je m'appelle Hugues Dufour. Je suis né le 28 septembre 1943 à Lyon, 3e, sous les bombes. Personne n'a pu consigner l'heure de ma naissance. Et je suis compositeur, et l'on me dit aussi philosophe.
Bonjour Hugues Dufour.
Bonjour.
Vous nous recevez chez vous, ici à Strasbourg, où vous résidez depuis quelques années. Nous sommes dans votre bureau, en quelque sorte. Vous avez plusieurs bureaux, plusieurs bibliothèques. Une bibliothèque de philosophie, une bibliothèque de musique. Des endroits pour travailler, bien sûr, pour travailler la musique, pour travailler aussi les écrits. Mais vous n'êtes pas du tout originaire de Strasbourg, même si c'est une ville que vous connaissez bien. Vous êtes lyonnais d'origine.
Je suis lyonnais d'origine et j'y ai vécu 33 ans. J'y ai fait toute ma scolarité secondaire, supérieure. J'y ai préparé et passé l'agrégation. Et j'ai été immédiatement réaffecté d'autorité dans mon propre lycée, le lycée Ampère, en 1967. Donc ça ne m'a pas beaucoup changé et été par la suite, l'année suivante, nommé assistant à l'université dans le département de philosophie.
On va revenir à votre enfance à Lyon. Vous êtes trop jeune pour avoir des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, quoique peut-être.
Oh non. Ces souvenirs sont, je veux pas trop en parler, mais ces souvenirs sont précis, très précis. J'ai une mémoire d'éléphant, et notamment pour tout ce qui touche à mon enfance. Ma famille était obligée de descendre du 5e étage à la cave tous les soirs. Pendant 1 an, 2 ans, je ne sais, puisque la libération date de 45, donc il y a eu 2 années pénibles. Bien entendu, tout ne s'arrête pas à ce moment-là, car on grandit dans une ville dévastée. Une ville où les quais du Rhône et de la Saône étaient emplis, saturés de sans-abri qui passaient la nuit debout autour d'une espèce de petit feu. Et ils étaient tous soutenus, ils survivaient grâce à l'abbé Pierre. Voilà ce qu'était Lyon. D'autres quartiers étaient en ruine. Il n'y avait plus rien que de mauvais souvenirs. Voilà, ma petite enfance. L'aspect poétique, effectivement, tient à mes grands-parents et mon grand-père paternel, qui était écrivain, et chez qui j'ai vécu les 5 premières années de ma vie, dans un très grand appartement, grand bourgeois à l'époque. Et effectivement, là, j'ai eu une enfance contrastée, partagée entre l'extrême pauvreté de la situation générale et l'incroyable opulence des soyeux lyonnais et lettré lyonnais.
Il s'appelait Jean Dufour.
Jean Dufour.
Et il était musicien amateur.
Et mes deux grands-parents, lui, étaient violonistes. Ma grand-mère était violoniste de haut niveau. Elle donnait des concerts et pianiste. Et j'ai encore ici leurs partitions, je n'ai pas toutes, piano-violon, où il y a tout Beethoven noté, enfin toute la littérature musicale classique est annotée, m'a été transmise. J'ai encore tout Beethoven qui est leur legs, et je les ai entendus au tout début, ils jouaient encore, et puis mon grand-père est tombé malade, et tout cela a cessé.
Mais c'est par eux que vous avez découvert la musique, cette musique en particulier?
Je pense, la passion de la musique, la vénération, la religion de la musique, oui, c'est vient d'eux. Ça, c'est certain. Tout autant que les lettres, car la bibliothèque de mon grand-père... c'était la bibliothèque somptueuse d'un lettré et grand bourgeois, donc elle était immense et il y avait tout.
Il y avait les grands-parents, puis il y avait aussi la radio.
Ah, la radio a joué un rôle fondamental. Et c'était cette radio de l'immédiate après-guerre, et dont on sait que structurellement, institutionnellement, politiquement, les structures, tout avait changé. Et c'était une radio donc moderne et qui visait l'instruction publique. Et les émissions étaient remarquablement faites. Et d'autre part, la radio disposait d'un accès aux concerts des orchestres qui existaient encore à l'époque en région. Et j'ai entendu donc beaucoup de concerts donnés par les orchestres de région, ce qui signifie que le répertoire était extrêmement varié, et ce répertoire était produit, soutenu par les musiciens français de l'époque. Il ne s'agissait pas là de passer des disques.
Et vous alliez déjà au concert à l'époque ? Vous étiez encore...
Le plus tôt possible. Mes parents m'ont facilité les choses et permis d'aller au concert très tôt. J'étais encore en culotte courte, il faut bien le dire. J'allais partout, aux Jeunesse Musicale, et qui est concert très important.
Les JMF.
Les JMF, oui. J'étais donc un assidu, abonné, assidu. J'en manquais pas un. J'ai suivi également tous les concerts de Roger Accard et de Musique du Temps. Roger Accard finançait sur ses propres deniers l'association Musique du Temps, qui m'a donné accès à toute la musique la plus contemporaine. J'ai pu même rencontrer là les Messiaens, avec qui... j'ai conservé, entretenu des liens familiaux. J'ai connu Claude Elfer, qui est resté jusqu'à la fin de sa vie, un grand ami. J'ai connu les Parrainins. J'ai connu Luis de Pablo. Enfin, Stockhausen, c'était innombrable, c'était sans fin. J'ai connu à peu près toute l'Europe théâtre à cette époque.
C'était à Lyon, ça s'appelait Musique du Temps.
C'était les concerts de Musique du Temps.
Ça avait lieu à la salle Molière ou dans d'autres
salles?
C'était
salle Molière, ouais. Exactement.
Et puis alors, j'ai lu quelque part que vous aviez un ami qui s'appelait Jacques Roux, qui vous a fait entendre aussi de la musique enregistrée,
ça, c'est
des disques.
C'est mon plus grand ami qui est mort, hélas, très tôt. Donc, c'est une perte. Oui, non, je ne me suis jamais consolé. Un germaniste qui allait tous les étés à Beyrouth et qui connaissait à fond la vie musicale allemande. Donc, il faut se souvenir aussi que Lyon, à cette époque, était d'une manière générale une ville dont les goûts musicaux étaient foncièrement germaniques. Et donc, Jacques Roux achetait à peu près tout ce qui paraissait en disque. Donc, grâce à lui, j'ai tout entendu.
Vous avez un souvenir particulier d'un disque qui vous a frappé à l'époque ?
Par exemple, Goulda. Autre exemple, Glenn Gould. Bon, évidemment, les grands Wagner par Karajan, mais ça, bon. Il m'avait signalé les premiers Mahler grâce à Bernstein. Et il m'avait dit, à l'époque, ça m'avait frappé, rendez-vous compte que Mahler et Bruckner n'auront été véritablement acclimatés en France que grâce à la médiation du disque, et il aura fallu donc briser l'opposition sociale et institutionnelle que la France opposait.
On pourrait peut-être ajouter à ce duo Mahler-Bruckner, peut-être Sibelius.
Exactement, et c'est grâce à lui que j'ai connu également Sibelius dans toutes ses versions. Sibelius a toujours été dédaigné en France, et le toujours, hein, ce qui est à mon avis une grave erreur, car je connais très bien Sibelius. Et c'est le dernier et seul symphoniste qui avait finalement réduit le problème symphonique à son ultime dimension, qui était la dynamique de l'orchestre. Alors, laissons tomber le problème du langage, laissons tomber les questions mélodiques, mais ce qu'il y avait d'absolument nouveau chez Sibelius, c'était par exemple ces effets de rouleau compresseur à l'orchestre, ces effets de déflagration, ces tenues hallucinantes ou ces chutes brutales dans l'enfer, mais nous sommes déjà dans le monde du XXe siècle.
France Musique, les grands entretiens de Hugues Dufour.
Vous êtes un enfant, un adolescent passionné de musique, qui écoute la radio, qui va au concert le plus possible. Mais tout petit déjà, vous faisiez le vœu d'être compositeur, quand une étoile filante passait. Comment est-ce qu'un enfant de 5 ans peut savoir qui sera compositeur ?
Je n'en sais rien, comme je ne sais pas au fond les raisons, il faudrait s'entendre, de psychanalyse, pour lesquelles je me suis entièrement concentré sur le sens de l'ouïe. Ça, c'est ça. Et pourquoi finalement tout ce que j'ai pu faire est passé par la création musicale, c'est-à-dire encore Louis et la dynamique de l'orchestre. Ça, je n'en sais rien, mais c'est ainsi. Je n'ignorais pas du tout, par exemple, le cinéma, puisque mon autre grand-père, qui m'était non moins cher, celui qui a fait Verdun à 17 ans, qui a monté une usine à Lyon, c'était un homme, lui, ultra moderne, un industriel ultra moderne. Eh bien, évidemment, il s'intéressait au cinéma, et donc j'ai eu des séances de cinéma chez lui tous les dimanches soirs. Donc j'ai connu Charlot, tous les films, et le monde américain aussi. Donc j'avais le choix aussi avec le cinéma, avec la littérature, mais c'est... La musique est restée la donnée absolument intangible. Je faisais de la flûte au lycée. Beaucoup, beaucoup de dictées musicales, j'aimais ça. Et j'avais toujours 20 sur 20. Donc je ne comprenais pas qu'on puisse... J'avais l'oreille absolue, qu'on puisse ne pas entendre la hauteur, discerner, identifier la hauteur... des notes, les intonations justes. Bon, les choses ont bien changé lorsque mon oreille a été atteinte. J'ai dû trouver des moyens substitutifs, mais originairement, la faculté d'audition était aussi une espèce de repère absolu.
Mais vous dites que la musique l'a emporté, mais vous aviez d'autres possibilités, ne serait-ce que dans le contexte où vous évoluez, puisque dans votre famille, il y avait aussi la peinture et les origines vénitiennes.
J'ai eu plusieurs possibles, effectivement. L'un des possibles dont on parle moins aujourd'hui a été l'usine. Mon grand-père avait monté cette usine de néon avec ma grand-mère. Et donc, j'ai connu tous les mécanismes de l'usine que je peux encore vous réciter, avec les corps de métier, les techniques, etc. Donc, j'ai eu, en un certain sens, l'enfance d'un chef, car j'étais destiné par mon grand-père maternel à reprendre l'usine, qui était situé au 5 place Bellecour. Ça, c'était le monde, dirais-je, le monde du futur. Le monde de l'électronique, enfin tout ce que j'ai rejoint plus tard. L'autre possibilité était les lettres, mais ayant beaucoup lu, je me suis rendu compte, même à l'école, que ce ne serait pas ma voix. Il y a eu par la suite la philo que j'ai pratiquée très très tôt. Très tôt, c'est-à-dire bien avant la classe de terminale, j'ai commencé à lire, oui, les preuves de Dieu de Descartes vers 13 ans, en me demandant ce qui pouvait bien clocher dans ce type de raisonnement. Et bon, l'appétit philosophique n'a jamais cessé, mais j'en ai fait en quelque sorte le double de l'œuvre musicale, enfin l'ombre, ce qui accompagne, ce qui soutient, ce qui alimente l'œuvre musicale, mais je ne me suis jamais défini par une ambition philosophique spéciale. J'aime ce métier, je le pratique toujours, j'ai même une passion, il me nourrit, mais l'affaire de ma vie décisive, l'enjeu, c'est la musique.
vers Venise?
Alors, Venise, ça, c'est une autre affaire. C'est mon destin englouti. Alors, Venise, bien, mais ma grand-mère maternelle était vénitienne. J'ai eu une éducation d'enfant italien, ce qui n'est pas mince. Car ma grand-mère était une aristocrate, et nous avons les archives de cette famille à Vittorio Veneto. Archives qui remontent au XIVe siècle, à Venise, et grâce à ma mère et à mes tantes, j'ai été familiarisé très tôt avec la peinture vénitienne, dont j'ai fait ensuite mon miel. Je voulais faire un paradis, et je ne l'ai jamais fait, d'après Tintoret. Mais je suis retourné souvent à Venise, revoir ce paradis, dans le dessein d'en faire sur le tard une œuvre. Je ne l'ai pas fait. Il y a eu Titien, je ne l'ai pas fait. Giorgione, évidemment, ça, je l'ai fait.
Vous l'avez fait très tôt, la tempête.
La tempête, ah oui. Oui, oui, ça c'était... Mais enfin, comment vous dire, j'ai vécu dans une espèce de musée imaginaire toute ma vie que j'ai acquis au cours de cette enfance. Et donc, oui, il en est sorti quelques titres en musique, mais seulement quelques titres. Nous sommes très loin du réel. Enfin,
La musique, la peinture, la philosophie, vos parents étaient tous les deux enseignants en philosophie au lycée.
Oui, ça aussi, c'est au fond très important, car mes parents étaient l'un et l'autre professeurs de philo dans le secondaire, en terminale. Ma mère au lycée, mon père, si je me souviens bien, à l'école d'instituteur. Et donc, mes parents invitaient très souvent, presque tous les dimanches, un philosophe à la table familiale, ce qui fait que j'ai des souvenirs très précis, et d'ailleurs chaleureux, de Jean Lacroix, qui fut le grand chroniqueur du Monde. J'ai entendu parler de Sartre, j'ai entendu parler... De Foucault, de Merleau-Ponty, évidemment, puisqu'il avait enseigné à Lyon. Tous ces philosophes étaient presque des figures familiales. Et l'un des plus grands, dont on ne parle plus beaucoup, qui a formé toutes ces générations, était Lachaiserey, Pierre Lachaiserey, philosophe donc spécialiste de Kant et de Spinoza, et très très grand esprit. Par lequel j'étais aussi indirectement formé.
C'est avec cet extrait de La Tempesta d'après Giorgione de Hugues Dufour par l'ensemble L'Itinéraire dirigé par Michel de Couste que se referme le premier épisode des Grands Entretiens d'Hugues Dufour proposé par Arnaud Merlin, réalisé par Françoise Cordet. Une série disponible en podcast sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.